prions. Ô Seigneur, nous te demandons ton aide ce matin. Aide-nous, Seigneur, à bien comprendre ta parole. Nous voulons la consulter, nous voulons y plonger nos regards, nous voulons apprendre quelque chose de la part de ton esprit et qu'il nous parle à nos cœurs de ta parole. Seigneur, ta parole est une lampe, c'est une lampe sur notre chemin. Te demandons, Seigneur, donne-nous ce matin vraiment l'attention nécessaire. Garde-nous, Seigneur, de toute distraction. Aide-nous, Seigneur, à comprendre aussi. Aide-nous à assimiler. Aide-nous, Seigneur, d'avoir la force d'obéir et de suivre ta parole. Seigneur, oui, aide-nous en ce moment. Nous t'en supplions au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Gloire à Dieu pour sa parole. Voici un sujet que j'ai eu à cœur pour vous. C'est comme vous voyez, c'est un vieux sujet. Je travaille sur ce sujet depuis 2015. Et ce sujet est, je pense, le deuxième chapitre d'un ouvrage qui devait terminer l'année passée, mais qui a pris du retard. Enfin, il y a déjà 10 chapitres, c'est tout sur Dieu. Dieu l'incomparable, l'unique Dieu incomparable. Et alors, vous trouverez les 10 chapitres sur Kindle, Amazon, si vous voulez. En attendant que ce soit terminé avec la grâce de Dieu, si Dieu donne la force. Que la présence de Dieu est un mystère. Je trouve que c'est un vrai mystère pour le chrétien, de ressentir la présence de Dieu. Je crois qu'on est tous d'accord là-dessus, parce que on sent la présence de Dieu sans le voir. On entend sa parole, sa volonté, sans l'entendre. Alors, comment peut-on sentir la présence de quelqu'un qu'on ne voit pas? Comment peut-on entendre quelqu'un qu'on n'entend pas? On peut être consolé, on peut être béni, on peut être aidé, mais par quelqu'un qu'on ne voit pas? Je vous dis, c'est un mystère. C'est un mystère extraordinaire que nous vivons en tant que chrétiens. Parce que par la prière, nous discernons. Nous discernons la volonté de Dieu. Vous priez, vous sentez quelque chose ne va pas. Et vous approfondissez et Dieu se révèle et dit, il vous dit pourquoi ça ne va pas. Il vous montre, vous le sentez. Donc, cette présence est vraiment réelle. Elle peut être forte, elle peut être insistante. La présence de Dieu est plus réelle qu'une intuition. Vous avez déjà les intuitions, c'est très fort. Et même pour les scientifiques, l'intuition est un mystère. Parfois, vous sentez que quelqu'un vous regarde. Vous avez déjà fait cette expérience-là. Pourtant, vous ne le regardez pas, mais vous sentez qu'on vous regarde. Pourquoi? Comment savoir ça? Vous avez l'intention que quelqu'un vous apprécie ou que quelqu'un ne vous apprécie pas. C'est mystérieux. Quelqu'un a dit que quand une personne ne vous apprécie pas, c'est qu'elle a un autre esprit que vous. C'est spirituel. Bien souvent, c'est le cas. C'est dans le domaine spirituel. Et c'est comme ça que la présence de Dieu est plus qu'une intuition. C'est quelque chose qui nous émerveille. Et ça correspond à un besoin en nous. Parce que nous avons tous le besoin de Dieu. Et il y a en nous un vide qui a la forme de Dieu. C'est Blaise Pascal qui disait cela. Alors nous allons lire le psaume 42, bien sûr, pour voir cette soif de l'aspiration de l'âme la présence du Seigneur. Bien connu, n'est-ce pas, le psaume 42, qui a d'ailleurs inspiré plusieurs cantiques. « Comme une biche soupire après de courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu ?» Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit, pendant qu'on me dit sans cesse « Où est ton Dieu ?» Je me rappelle avec effusion de cœur quand je marchais entouré de la foule et que je m'avançais à la tête de la foule vers la maison de Dieu, au milieu de cris de joie et d'actions de grâce, d'une multitude en fête. Pourquoi t'as battu mon âme et pourquoi gémis-tu en dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Ce psaume est magnifique sur cette aspiration de la présence de Dieu. Et ce qui est remarquable dans la parole de Dieu, c'est que le besoin est réciproque. Comme nous, on ressent le besoin de Dieu, ainsi Dieu ressent le besoin de la présence de l'être humain. Ça, c'est incroyable. Et nous lisons dans le psaume 139, « Éternel, tu me sondes et tu me connais. » Ici, David dit que Dieu nous cherche. Tu me cherches. On dit ça parfois. Hein. Tu me cherches. Tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds, quand je me lève, tu pénètres de loin ma pensée. Tu rentres dans mon cerveau. Tu pénètres ma pensée. Tu sais quand je marche, quand je me couche. Tu pénètres toutes mes voies. Où irai-je loin de ton esprit? Et où fuirai-je loin de ta face? Donc Dieu recherche notre présence. Et alors, quand il ne trouve pas notre présence, Dieu souffre, il y a une souffrance. Nous avons difficile d'imaginer que Dieu souffre. Pourtant, il y a des exemples dans la Bible. Quand Dieu ne voyait plus Adam, il a dit, « Où es-tu? Mais où es-tu? Je te cherche, je ne te vois pas. Où es-tu? » Et Adam se cachait. Parce que, pourquoi? Il avait brisé la communion. Et quand la communion est brisée, on a plutôt envie de se cacher. Alors, finalement, elle sera chassée du jardin d'Éden, où la présence de Dieu était vraiment évidente, proche de lui. Et cette histoire biblique nous montre bien que Dieu recherche la communion avec l'être humain. Toute la Bible montre que Dieu cherche la communion avec l'être humain, la rétablir puisqu'elle a été perdue. Vous voyez comme Dieu cherche la communion d'un être comme Abraham. Et c'est vrai, c'est un exemple magnifique. Il y a Enoch, Noé, Moïse, toute l'histoire d'Israël, les prophètes, les grands, les petits. Et finalement, c'est comme si Dieu ne trouve pas de solution ou que ces solutions ne marchent pas, qu'elles sont insuffisantes, ou qu'elles deviennent obsolètes, et qu'il décide de venir lui-même. C'est étonnant, n'est-ce pas? Venir lui-même pour rétablir la communion avec l'être humain par Christ, qui a été annoncé par les prophètes comme étant l'Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous, Dieu parmi nous. Un autre texte dit « Je viendrai moi-même ». Dieu viendra lui-même. Et c'est ce qu'il a fait. Et il s'est donné. Donc Dieu résout une fois pour toutes cette séparation avec lui par le sacrifice de son Fils. Et il accorde l'Esprit afin d'inscrire la loi de Dieu dans le cœur de son nouveau peuple, qui est issu non pas d'une tribu, mais d'un monde, du monde entier. Et il est dit que le Consolateur demeurera éternellement avec vous. Donc nous avons là vraiment toute la Trinité qui nous donne sa présence. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Oui, Dieu souffre de ne pas être en communion avec nous. Il souffre quand nous souffrons. Il souffre quand nous faisons souffrir. Il souffre quand nous fuyons et quand nous ne recherchons pas sa présence. Jésus a dit, chaque fois que vous faites ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous le faites. Donc vous faites souffrir, c'est à moi que vous faites souffrir, Jésus l'a dit. Et on peut facilement comprendre pourquoi Dieu n'était pas content de toutes ces anciennes tentatives de réconciliation, parce que ces tentatives-là provoquaient la religion plus que la relation, donnaient un ensemble de règles plutôt qu'une vraie relation avec Dieu. Or Dieu veut mettre tout en œuvre pour être proche de nous. Le premier chapitre d'Ésaïe résume bien cela. Quand il est dit au verset 11, « Qu'ai-je à faire de la multitude de vos sacrifices ?» Pourtant, nous sommes là dans l'Ancien Testament. « Qu'ai-je à faire de la multitude de vos sacrifices ?» dit l'Éternel. « Je suis rassasié et j'en ai assez. » Des holocaustes de béliers, de la graisse, des veaux. Je ne prends pas plaisir au sang des taureaux, des brebis et des boucs. J'ai en horreur l'encens, les nouvelles lunes, les sabbats, les assemblées. Je ne puis voir le crime s'associer à ces solennités. Mon âme est vos nouvelles lunes et vos fêtes. Je suis là de les supporter. Sentez-vous là la souffrance de Dieu? Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Venez, plaidons, dit l'Éternel, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. Et là déjà, Dieu appelle à la repentance, à une vraie relation qui n'est pas basée sur des rites, mais sur une vraie communion entre lui et nous. Voici ce que Jésus a dit à Jude. « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. » Notre demeure. Alors pourquoi avons-nous parfois cette réticence face à la présence de Dieu? Pourquoi donnons-nous préférence à nos propres convoitises qui s'opposent à Dieu? Et parfois, ça va si loin que nous n'éprouvons même plus le besoin de la présence de Dieu, parce que nous avons donné libre cours à d'autres présences. Pourtant, la présence de Dieu, elle est importante dans nos vies, dans notre église, dans nos maisons. Il y a un besoin énorme d'une vraie présence tangible, d'une présence manifeste. Mais alors pourquoi souvent nous l'étouffons? Y a-t-il encore dans nos cœurs cette soif de Dieu, cette soif de la présence de Dieu? Pourtant, voilà, c'est la volonté de Dieu que nous puissions donner accès à la présence de Dieu dans nos vies, dans notre maison, dans notre église. Nous devrions la désirer ardemment. Et il y a des choses que seule la présence du Saint-Esprit peut réaliser. Il y a des victoires qu'on ne peut avoir qu'en sa présence. Il y a des révélations qui ne peuvent venir qu'en la pleine présence de Dieu. Nous avons besoin de sa présence. Alors la Bible nous montre qu'il y a différents niveaux, différentes dimensions de la présence de Dieu. Et on peut trouver facilement trois ou quatre niveaux différents de la présence de Dieu. La première, qui est certainement évidente pour nous tous, c'est la présence universelle de Dieu. C'est ce qu'on appelle la présence, l'omniprésence de Dieu. Dieu est partout. Dieu est présent partout. Alors, il y a plusieurs textes de base qui parlent de ça, comme ici Jérémie, au chapitre 23, qui dit « Ne suis-je pas Dieu que de près, dit l'Éternel ? Ne suis-je pas aussi Dieu de loin ? Quelqu'un se tiendrait-il dans un lieu caché, sans que je le voie ? Dit l'Éternel. Ne remplis-je pas moi les cieux et la terre ? Dit l'Éternel. » Les Américains ont un beau chant chrétien qui dit que Dieu est le Dieu de la montagne, mais il est aussi le Dieu de la vallée. Oui, Dieu est présent. Et personne ne peut réellement fuir devant Dieu. Personne ne peut échapper à son regard. Personne ne trouvera un endroit dans l'univers pour se cacher de Dieu. Et Jonas, on a bien fait l'expérience qui a fui devant sa mission. Et même les cosmonautes devraient se méfier d'aller dans l'espace sans Dieu. Et il y en a qui ont bien pris soin de ne pas y aller sans Dieu, qui ont même proclamé Dieu dans l'espace. Il y a ce texte d'Abdias qui dit « Quand tu placerais ton nid parmi les étoiles, tu placerais ton nid parmi les étoiles, je pourrais t'en précipiter, dit l'Éternel. » Abdias 4, une prophétie contre Édom, les descendants d'Ésaü, qui sont devenus un peuple arrogant, dont la capitale était Petra, qui était taillée dans le roc. Alors, un autre texte magnifique sur l'omniprésence de Dieu, c'est le psaume 139. Où fuirais-je loin de ta face ? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta mère me conduira et ta droite me saisira. Alors, la présence de Dieu remplit donc tout l'univers. C'est réconfortant pour nous de savoir que n'importe où, n'importe quand nous prions, Dieu nous entend toujours. Toujours, parce qu'il est partout. Et il nous entend toujours. Ce ne sont jamais des paroles vaines. Les athées disent, mais vous parlez à qui ? Quand ils voient un chrétien, ils disent, mais que fait-il ? Il parle à qui ? Il n'y a personne qui écoute. Personne de visible qui écoute. Mais Dieu est partout. Et il entend nos supplications. Alors, un deuxième niveau de la présence de Dieu, c'est la présence garantie pour l'enfant de Dieu, le chrétien. Il y a quand même beaucoup de textes qui disent qu'avec la venue de Christ, avec le sacrifice de Christ, il y a une nouvelle dimension dans la présence de Dieu pour celui qui croit. Le sacrifice de Christ résout le problème de la séparation entre Dieu et les hommes, une fois pour toutes. Le voile de la séparation s'est déchiré dans le temple. C'est tout un symbole. Donc les mérites de Christ donnent au chrétien qui est né de nouveau parce qu'il a cru dans le sacrifice de Christ, ça lui donne des garanties. Et dans Jean 14, nous pouvons lire « Je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Heureusement que Jésus spécifie, parce que les musulmans disent que le consolateur que Christ annonce, c'est Mohammed. Heureusement que Christ spécifie, il dit l'esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit pas, il ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera encore mieux. Il sera en vous. Il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai à vous. Magnifique ce chapitre 14 de l'évangile de Jean. Et ce dernier verset de Matthieu nous donne aussi l'assurance. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je suis avec vous tous les jours, garantie. C'est une garantie que le Seigneur donne. Dans 1 Corinthiens, Paul nous assure aussi de cette réalité sans exception. Pour chaque chrétien, chaque vrai chrétien, nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, grec, esclave, libre. Hommes, femmes, enfants, adultes, nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Et il dira dans Romains 8, qui est vraiment le chapitre sur la présence de l'esprit en nous, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Alors, c'est vrai que la présence de l'esprit, c'est la présence de Dieu en nous, qui sommes chrétiens et qui avons reconnu le sacrifice de Christ comme étant efficace pour nous. C'est une présence qui n'est pas théorique, mais elle doit devenir de plus en plus manifeste que nous avançons avec le Seigneur et que nous grandissons dans ses voies. Alors, on peut mentionner une troisième dimension. C'est la présence active de Dieu. La présence active de Dieu, c'est quand la présence de Dieu devient manifeste, devient visible, tangible. L'arbre se reconnaît à son fruit, l'esprit aussi se manifeste par le fruit et par des manifestations. La Bible emploie trois expressions pour exprimer la présence active de Dieu. Elle emploie d'abord cette expression « la face de Dieu ». Il y a d'abondantes joies devant ta face. Et souvent dans la Bible, surtout la Bible seconde, chaque fois qu'il est question de chercher la présence de Dieu, seconde traduit par « chercher la face de Dieu ». Il est dit par exemple au sujet d'Abraham que quand il venait près des chênes de Mamré, il cherchait la face de l'Éternel. Et le mot hébreu pour présence, c'est paonim qui est employé ici et qui veut dire personne ou face. Donc, voir la face de Dieu est en réalité être dans la présence de Dieu. Et c'est vrai que nous ne pouvons pas dissocier la présence de Dieu de sa personne. Si vous aimez Dieu, vous chercherez sa présence, et si vous cherchez sa présence, vous rencontrerez sa personne, et vous recevrez une révélation de son caractère, de quelle personne il est. vous recevrez une révélation de ses plans, de ses principes, de ses attributs. Si vous voulez que Christ vous communique sa puissance, recherchez sa présence et vous aurez la révélation de la puissance de Christ. Si vous voulez que l'action de l'Esprit vous anime, venez en présence de l'Esprit, vous connaîtrez sa personne et vous pourrez vous abreuver abondamment. Et la deuxième expression qui est beaucoup employée dans la Bible, c'est la gloire de Dieu. Il y a là deux mots hébreux qui désignent la gloire de Dieu, le mot Shekinah qui est beaucoup employé et qui signifie habitation, qui désigne que la glorieuse présence de Dieu est présente dans le tabernacle d'abord, dans le temple après, et puis dans le chrétien finalement. Il y a kabod qui signifie poids. Et quand la présence devient tangible, comme un poids dans l'air, on peut sentir le poids de la présence de Dieu au-dessus d'une église, au-dessus d'une assemblée. Ça devient tangible, ça devient réel. Et il y a beaucoup d'exemples dans la parole de Dieu, comme pour Moïse, par exemple, quand il est dit qu'il monta sur la montagne et que la nuée couvrit la montagne, la gloire de l'Éternel reposa sur le mont Sinaï et la nuée le couvrit pendant 6 jours. Le 7e jour, l'Éternel appela Moïse du milieu de la nuée et l'aspect de la gloire de l'Éternel était comme un feu dévorant sur le sommet de la montagne aux yeux des enfants d'Israël. Moïse entra au milieu de la nuée et il monta sur la montagne. Moïse demeura sur la montagne 40 jours et 40 nuits. Et ça, c'est magnifique de voir tous ces textes qui nous parlent de la présence de Dieu et de la gloire de Dieu. On peut aussi mentionner ici ce qu'il est dit au sujet du tabernacle. La nuée couvrit la tente d'assignation et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente parce que la nuée restait dessus et que la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. Et lorsque Salomon a fait la dédicace du temple, il est dit dans 2 Chroniques au chapitre 7, lorsque Salomon eut achevé de prier, le feu descendit du ciel et consuma l'holocauste et les sacrifices, et la gloire de l'Éternel remplit la maison. Voyez-vous comme la gloire de l'Éternel peut remplir une église? Elle peut remplir notre église. Et on réalise souvent que lorsque il y a un appel pressant de la part de Dieu, la gloire de Dieu est manifeste, comme Moïse quand il était devant le buisson ardent et que Dieu l'appelle et il réalise là, ça c'est un miracle, le feu ne s'éteint pas, le buisson ne s'éteint pas, c'est la gloire de Dieu. Je me rappelle une fois à Varennes, lors d'un moment de Sainte-Seine, on a eu un moment où on a vraiment senti la gloire de Dieu comme jamais. On ne marchait plus par la foi, on marchait par la vue. Plus personne ne doutait. On savait que Dieu était là, on savait que la présence de Dieu. Et alors on a fait comme Moïse. On a enlevé nos chaussures. Tout le monde a enlevé ses chaussures. Tellement la gloire de l'Éternel était présente. Ça, c'est quand même surprenant. Et nous lisons beaucoup de textes dans la Bible sur la gloire de l'Éternel. Jésus est appelé d'ailleurs le Seigneur de gloire. Et le chrétien, lui, il évolue de gloire en gloire. J'ai entendu, je ne sais plus quel chrétien a fait allusion à cela dans ses prières. Et c'est vrai. Nous tous, dont le visage découvert, reflète la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. 2 Corinthiens 3, 18. Alors, j'essaie d'avancer un peu. Nous sommes dans ce troisième mot qui illustre la présence active de Dieu, c'est l'onction. Ce mot onction est magnifique parce que dans l'Ancien Testament, il y avait trois onctions principales. Les sacrificateurs, les rois et les prophètes. Alors, ce n'était pas quelques gouttes d'huile, c'était une fiole entière qu'on déversait sur la personne pour illustrer l'abondance, pour illustrer la plénitude. L'idée était de couvrir la personne de la puissance de Dieu. Une belle image, aussi belle que le baptême, on peut dire. Et l'huile est certainement un des symboles de la puissance de l'Esprit de Dieu. On peut dire qu'en Christ, toutes les onctions de Dieu sont réunies en le concernant. Et il y a ce texte de Ecclésiaste qui est très fort. Quand tout temps tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque point sur ta tête, pour avoir l'onction de Dieu, il faut accepter ce principe de la purification, se laver, que tes vêtements soient blancs. La présence de Dieu est le lieu par excellence pour obtenir délivrance et pardon de toutes nos fautes, de nos péchés, de nos erreurs. C'était la parole de Naomi à Ruth qui va dans le même sens. Lave-toi et oins-toi. Les deux vont ensemble. Jacques, lorsqu'il parle de l'onction d'huile, il insistera sur la confession des péchés. Il dit « Confessez vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. » Cette notion est importante. Et David aussi montre l'importance de l'onction de Dieu. Et la parole de Dieu nous montre tout l'intérêt d'être loin de la présence de Dieu. Lorsqu'il est dit dans le psaume 89, « J'ai trouvé David, mon serviteur, je l'ai loin de mon huile sainte, ma main le soutiendra, mon bras le fortifiera, l'ennemi ne le surprendra pas et le méchant ne l'opprimera pas. » Et dans 1 Jean, il est dit « Pour vous, c'est-à-dire vous, les chrétiens, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Dans la présence de Dieu, il y a onction. » Et quand il y a onction, il y a victoire, il y a protection de l'ennemi, il y a délivrance des oppressions. Certaines victoires ne s'obtiennent que dans la présence de Dieu. Et Jésus disait que certains démons ne sortent que par le jeûne et par la prière, c'est-à-dire par la présence de Dieu. Voilà pour ces trois points. On pourra ajouter un quatrième, je ne l'ai pas noté. Mais c'est la présence parfaite pour l'éternité, comme il est mentionné dans l'Apocalypse 21. C'est la présence totale de Dieu à laquelle nous aspirons. Notre frère a mentionné cela dans la prière, que nous aurons vraiment la gloire, la présence totale du Seigneur lorsque nous serons avec lui pour l'éternité. Voir mon Sauveur face à face, nous dit un chant, et ça c'est vraiment magnifique. Alors je termine. Les exemples de présence de Dieu dans la Bible sont vraiment remarquables. Nous avons déjà cité Moïse. Il est dit de Moïse qu'il parlait avec Dieu face à face, comme un homme parle à son ami. Et Moïse, un jour, lui a dit, « Fais-moi voir ta gloire. » C'était une demande vraiment ambitieuse. Et les versets suivants, dans Exode 33, sont terribles. Dieu va lui dire, « D'accord, mais tu ne pourras me voir que par derrière. » Parce que voir Dieu en face, c'est mourir. Et Dieu va passer avec sa gloire, il va cacher Moïse dans le creux d'un rocher, il mettra sa main sur ses yeux, et quand il sera passé, Moïse le verra par derrière. Alors là, on se demande, mais jusqu'où peut-on aller dans la présence de Dieu? Et Éphésiens dit, jusqu'à toute la plénitude de Dieu. C'est quand même fantastique. Éphésiens 3, 19. Alors Moïse va recevoir Dieu, la révélation de Dieu au chapitre suivant, au chapitre 34. Et il est dit, l'Éternel passa devant Moïse et s'écria, Éternel, Éternel, Dieu miséricorde et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion du péché, qui ne tient pas le coupable pour innocent, etc. Tous les attributs de Dieu sont dans cette révélation. Et cela est quand même remarquable. Alors Moïse descendit de la montagne de Sinaï avec les deux tables du témoignage, les tables de la loi dans ses mains. Et il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Au verset 29. Alors Moïse était devenu lumineux. Et il ne le savait pas. Donc la présence de Dieu l'avait totalement détaché de lui-même. Sa chair n'avait plus d'importance. En présence de Dieu, les choses de la terre pâlissent, comme le dit un chant. Alors cela est vraiment remarquable. Il y a un autre exemple dans la Bible qui est tout à fait magnifique, c'est tout ce qui est dit au sujet de l'Arche de l'Alliance, qui à l'heure actuelle est toujours disparue, qui était l'objet principal du tabernacle, mais qui était une vraie illustration de la présence de Dieu. C'était comme un grand coffre, 1,15 m sur 70 cm, puis à l'intérieur, il y avait la présence de Dieu. Et ce sont des choses provisoires. C'est l'ombre des choses à venir, comme le dit un texte. Parce que Christ n'est pas venu et l'Esprit n'est pas descendu. Et quand David devient roi, la première chose qu'il va faire, c'est rassembler les sacrificateurs. Et il leur dit, ramenons l'arche à Jérusalem. Et c'est le texte magnifique qui est dit ici dans 2 Samuel. David fit conduire l'arche dans la maison d'Obed. L'arche de l'Éternel resta 3 mois dans la maison d'Obed, et l'Éternel bénit Obed et toute sa maison. On va dire au roi David, l'Éternel a béni la maison d'Obed et tout ce qui est avec lui à cause de l'arche de Dieu. Et David se mit en route, et il fit monter l'arche de Dieu depuis la maison d'Obed jusqu'à la cité de David au milieu de réjouissance. Voyez-vous l'effet de la présence de Dieu dans la vie de quelqu'un? Ah oui, c'est surprenant. Alors nous, qui vivons encore mieux que dans l'Ancien Testament, qui vivons dans la Nouvelle Alliance, c'est encore plus vrai pour nous que pour Obed. L'arche était provisoire, mais Dieu ne se laisse pas mettre en boîte. Nous avons reçu l'Esprit de Dieu pas pour que nous l'enfermions dans notre esprit, même dans notre esprit, mais pour que nous soyons débordants de l'Esprit de Dieu, forts de sa présence de Dieu en nous, et que c'est le Seigneur que nous fassions rayonner autour de nous. Romains 8, toujours, qui est le chapitre sur l'habitation de l'Esprit dans le chrétien. Si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. L'habitation de Dieu est pour nous une puissance de vie et de résurrection. Alors voilà, on pourrait aussi parler longuement des psaumes de David. Les psaumes de David sont vraiment magnifiques. David était un homme selon le cœur de Dieu. Pourquoi ? Il était passionné de Dieu. Dieu était sa passion. Et nous le lisons dans tous les psaumes, tous ces cris assoiffés envers son Créateur. Combien de fois il dit qu'il voulait rester toujours dans la présence de Dieu. La présence de Dieu n'était pas juste une sensation. C'était une vraie rencontre avec une vraie personne. C'était pas juste un frisson ou un vent qui passe. Non. Il dit dans le psaume 27, « Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel. » Ailleurs, il dira, « Mieux vaut un jour dans tes parvis que mille ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de Dieu, car l'Éternel est un soleil, un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. » Je veux dire que David recherchait la présence de Dieu plus que tout au monde. Dans sa présence, David n'avait plus de doute, parce que la réalité de la personne de Dieu était tangible, comme nous l'avons lu. Tu me sondes, tu connais, tu sais quand je m'assieds, quand je me lève, tu pénètres de loin ma pensée, tu m'entoures par derrière, par devant, tu mets ta main sur moi. Magnifique ce psaume. Et David, on peut dire qu'il avait une telle conscience de la présence et de la parole, de la personne de Dieu avec lui, et que pour lui, Dieu était partout, toujours présent, à chaque instant, dans n'importe quelle situation, bonne ou mauvaise. Et il n'hésite pas à puiser des réponses, à examiner la lumière de Dieu. La présence de Dieu était pour lui purifiante. Sonde-moi, ô Dieu, connais mon cœur, regarde, éprouve-moi, connais mes pensées, regarde si je suis sur une mauvaise voie. Conduis-moi sur la voie de l'éternité. David n'était pas parfait. Il avait commis un effroyable péché, la convoitise, le crime. Nathan, le prophète, avait dû éveiller sa conscience par une phrase terrible. « Tu es cet homme mauvais. C'est toi qui as commis le mal. » Et il va écrire encore un psaume magnifique pour se repentir. Psaume 51, où il dira « Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint, rends-moi la joie de ton salut. » Ah, parfois dans la vie chrétienne aussi, nous passons par des épreuves pareilles. Parfois nous avons perdu ou négligé la présence de Dieu. Un événement nous a refroidi dans notre relation avec Dieu. Surtout, ne prolongeons pas cet état malheureux. Dans ce psaume 51, oui, nous pouvons le prendre comme exemple pour nous et retrouver la joie du salut dans la présence de Dieu, la présence du Seigneur, qui est la présence la plus précieuse. Et quand on prend le temps pour chercher la face de Dieu, lui exprimer nos regrets, nous repentir sincèrement, profiter de la grâce qui découle des mérites de Christ sur la croix. Oui, la communion avec Dieu se rétablit. Et nous sommes vainqueurs. pourquoi Hébreux dit que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Il ne faut pas s'en priver. C'est trop précieux, c'est trop magnifique. Alors il y a bien sûr d'autres exemples, mais je ne vais pas m'attarder là-dessus. Mais comme Jacob, qui a vraiment lutté avec Dieu et qui a été le plus fort, nous dit la Bible, on peut vraiment aussi discuter avec Dieu. Il y a beaucoup d'exemples. On peut tout dire au Seigneur. Et il y a des beaux exemples de communion dans les évangiles. Marie de Béthanie qui s'est mise aux pieds de Jésus pour l'écouter. Cette femme pécheresse aussi qui avait séché les pieds de Jésus avec ses cheveux. Marie-Madeleine qui était délivrée de sept démons et qui a été la première à être témoin de la résurrection de Christ. Et à l'épisode de la transfiguration où Pierre reconnaît, ah, il est bon que nous soyons ici, il est bon que nous soyons, on va installer des tentes en cet endroit, tellement l'expérience est merveilleuse et salutaire, on va rester dans la présence de Dieu. Alors voilà notre conclusion. Puisque toute la Trinité entière œuvre pour établir une communion solide avec nous, puissions-nous vraiment y répondre favorablement de tout notre cœur afin d'être témoins de cette glorieuse Shekinah, cette dimension incommensurable dans notre vie chrétienne. Prions. Ô Seigneur, toi qui es le Dieu de l'univers, toi qui es le Créateur de ce monde, toi qui as mis tout en œuvre pour nous avoir avec toi dans une étroite communion. Seigneur, merci. Nous te disons merci parce que tu as vraiment mis tout en œuvre. Cette communion rompue entre toi et l'humanité. Tu nous as envoyé Jésus pour ôter tout obstacle à cette communion. Et il a mis le comble à son amour pour nous en obéissant jusqu'au sacrifice sur la croix. Seigneur, le voile est déchiré, nous avons libre accès à ta sainte présence. Ton esprit nous habite et il peut nous remplir de la plénitude de Dieu. Ô Seigneur, pardon d'avoir négligé un si grand salut. Combien, Seigneur, nous perdons notre temps à des choses inutiles. Oui, Seigneur, nous voulons grandir dans ta présence. Nous voulons expérimenter ta Shekinah dans nos vies. Nous voulons voir ta gloire dans nos familles, Seigneur. Nous voulons voir ta gloire, le poids de ta gloire descendre sur ton Église. Accorde-nous, Seigneur, aujourd'hui, cette grâce d'aspirer et de rechercher ta présence plus que jamais, plus que toute autre chose. Seigneur, deviens l'essentiel de notre existence. Que ta gloire et ton onction soient vraiment tangibles dans nos vies, au milieu de nous. Que le fruit de l'Esprit soit visible et débordant, que les dons de l'Esprit se manifestent selon ta volonté. Et encore, Seigneur, à toi, nous donnerons toute la gloire et nous te louerons encore, comme l'a dit le psalmiste. Oui, Seigneur, nous te louerons encore. C'est en ton nom, Seigneur, que nous t'avons demandé ces grâces. Merci Seigneur. Amen.